Faisons ici un court entracte dans la vie de notre Baptiste. Voilà donc un homme qui est né pour le théâtre, tant ses mimiques sont expressives. Bon. Mais le compositeur, que faut-il en dire? Et où en est la musique en France? Quand l'italien Gian Battista Lulli entre avec un tel éclat sur la scène parisienne, les compositeurs italiens, appelés depuis des années par Mazarin, leurs compatriotes, y sont les maîtres. Lulli va-t-il s'inscrire à leur suite en simple disciple? Les spectateurs du ballet de Psyché donné au Palais du Louvre le 17 janvier 1656 peuvent le croire. Lulli est un des auteurs du ballet. Il a eu la charge de composer la scène qui se déroule aux enfers. Le dieu Pluton apparaît sur son trône, flanqué de personnages allégoriques, la crainte, le soupçon, le désespoir, la jalousie. L'ensemble est bien dans la manière italienne. Pourtant, l'auditeur est touché par la façon dont la mélodie est marquée, dont Lulli l'impose, la détache. Le ballet de la Raillerie, 3 ans plus tard, fait entendre un duo de la musique française et de la musique italienne, représenté la première par Mademoiselle de la Barre, la seconde par la Signora Anna. Cette fois, Lulli a assimilé pleinement le style français, s'il n'en reste pas moins italien de nature, de tempérament et de formation. Je veux vous lire une jolie phrase du grand écrivain Romain Rolland sur la musique de Lulli. Elle est, écrit-il, la réunion de plusieurs rivières de musique sorties de régions diverses. Oui, mais Lulli veut paraître plus français que les Français. L'année 1661, il n'a pas 30 ans, alors qu'il accède à la haute charge de surintendant et compositeur de la musique de chambre du roi, il sollicite la nationalité française, modifie l'orthographe de son nom, qui devient désormais Lulli avec un Y, et naturalise aussi sa musique. Plus un air italien dans son ballet des saisons, illustrant et si bien de son influence sur le roi, que ses confrères italiens sont congédiés de France, l'année même où il obtient d'être le seul fournisseur des musiques de ballet de la cour. Ah, on l'imagine s'agitant dans les coulisses royales de Versailles. Un diable de personnage que Monsieur de Lulli. On dirait en effet qu'il y a du malin en lui. À ses talents d'artiste, il ajoute un génie d'homme d'affaires. Toujours le sens de la comédie, de l'intrigue. On pense au Scapin de Molière qui aurait gagné ses galons de grand bourgeois. Car il édifie à pas de géant une fortune considérable en sachant placer son argent à bon escient. Pourtant, il n'a rien à première vue pour séduire. Les années n'ont fait qu'accentuer les imperfections physiques de sa personne. Ne vous fiez pas trop au portrait que ses amis, grands peintres de l'époque, ont brossé de lui. Mignard, par exemple, a volontairement aminci sa corpulence pour lui donner de la distinction. Lulli est un petit homme d'assez mauvaise mine et d'un extérieur fort négligé. C'est là, il est vrai, un de ses adversaires qui parle. Lulli était si myope, écrit un autre, qu'il ne voyait presque pas qu'une femme était belle. Mais malgré cela, il avait dans le regard quelque chose d'acéré et d'investigateur. Romain Rolland a noté « Lulli avait la physionomie d'un grand oiseau de proie nocturne. » Rapace, oui. Mais ce rapace est doué d'une intelligence si vive. Il a tant d'esprit, de drôlerie, une malice si pétillante dans ce qu'il dit et aussi des mimiques si amusantes que ceux qui l'approchent sont vite subjugués. Est-ce vanité ou habileté? Avec lui, on ne sait pas bien à quoi s'en tenir. Lorsqu'il épouse en 1662 la fille de Michel Lambert, sur le contrat, il n'hésite pas à transformer son meunier de père en Laurent de Lulli, gentilhomme florentin. Et il n'a pas moins que les signatures du roi, de la reine-mère et du ministre Colbert pour authentifier cette supercherie. À la mort de Gaston d'Orléans, l'oncle du roi, Lully interrompt le divertissement qu'il est en train de donner et se consacre à la musique religieuse. Est-il sincère ? Est-il habile ?